que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac.
Bonjour, retour sur une expérience ambitieuse lancée il y a un an par trois associations italiennes. La Caritas, l'association Gandhi et la communauté Sant'Egidio ont inauguré le premier couloir humanitaire entre l'Éthiopie et l'Italie. En 2018, il a permis l'arrivée de 500 réfugiés érythréens, sud-soudanais et somaliens qui vivaient dans des camps de réfugiés le plus souvent. Au-delà d'un voyage sûr et légal, le projet prévoit un parcours d'intégration d'une durée d'un an. Au total, 106 familles et 90 personnes seules ont été réparties dans 87 villes du nord au sud de l'Italie. Depuis leur arrivée, l'objectif du couloir humanitaire était clair : donner aux réfugiés les outils pour devenir autonomes en un an afin qu'ils volent ensuite de leurs propres ailes. Les résultats ont été disparates tant les scénarios ont été nombreux et variés. Alors que sont devenus ces réfugiés ? Quelles ont été leurs difficultés ? Quel bilan tirer de cette expérience pionnière ? Migrants, un an après le couloir humanitaire, un grand reportage signé Cécile Debarge.
Sur la côte amalfitaine, au sud de Naples, Sorrente est l'un de ces joyaux que l'Italie réserve aux touristes. À flanc de falaise, les façades des maisons forment une cascade de couleurs qui dégringole vers la mer. C'est dans ce décor de carte postale que vivent depuis un peu plus d'un an 15 réfugiés érythréens et sud-soudanais arrivés grâce au premier couloir humanitaire entre l'Éthiopie et l'Italie.
Nial, tu peux aller prendre les œufs et tu les ramènes ensuite à la maison ?
Au détour d'une ruelle qui serpente vers la mer, derrière un haut portail blanc, l'un d'entre eux, Nial, multiplie les allers-retours dans un sublime jardin privé. Sur plusieurs hectares, une grande promenade ombragée, des fontaines, un potager et aussi un poulailler dont s'occupe matin et soir ce sud-soudanais de 27 ans.
J'ai récupéré les restes de table pour les donner à manger aux poules.
Emmitouflé dans sa doudoune malgré le soleil de cette fin de printemps, Nial jette les restes de salade et de légumes et profite de la distraction des poules pour récupérer 8 œufs. Peu après son arrivée, l'équipe de la Caritas lui a trouvé cet emploi comme jardinier à temps plein avec une équipe italienne.
Ce que j'aime, c'est la manière avec laquelle ils me traitent. J'ai un niveau bas en italien et pourtant ils se comportent bien avec moi. Ils ne me crient pas dessus. Fais ci, fais ça. Ils ne me regardent pas comme quelqu'un de différent d'eux. Ils me traitent comme un être humain. Et c'est ce que j'aime le plus.
En fin de journée, une fois le travail fini, Nial rentre chez lui, soit depuis un an environ, dans les locaux de la Caritas de la ville, flanqués au pied de la cathédrale de Sorrente. C'est là qu'ont été accueillis les 15 réfugiés du couloir humanitaire lors de leur arrivée. Et c'est toujours là qu'ils vivent, même si le projet d'accueil est terminé depuis quelques semaines. Dans la grande cuisine, l'ambiance est bon enfant. Ilham a 19 ans. Érythréenne, elle a passé plusieurs années dans un camp de réfugiés dans le nord de l'Éthiopie avant d'arriver à Sorrente avec son frère Nesreddin.
Bene, lavorato.
Tout va bien, je travaille comme aide cuisinière, ça fait 9 mois. Je rentre à 15h30 tous les jours, et puis le service du soir c'est 16h30 minuit. Je cuisine de tout, spaghetti, ravioli, gnocchi, on fait tout.
Aucune ombre au tableau, promet-elle, si ce n'est une grosse difficulté qu'elle avoue dans un sourire.
La langue, il n'y a que ça, parler la langue.
Parlare, solo lingua, language.
Ilham, comme tous les majeurs, a bénéficié de cours d'italien. Tous les mineurs, eux, ont été scolarisés. Ils représentent 41% des bénéficiaires dont la majorité ont moins de 10 ans. Ce sont eux qui ont vécu le plus facilement ce changement de vie, comme l'une des cadettes des 8 enfants de la famille sud-soudanaise qui, du haut de ses 5 ans à peine, converse pendant des heures en italien.
Poi, questa è la cartola animata.
Sa grande sœur Ignacenta, 17 ans, compare sa vie d'aujourd'hui à celle d'un an plus tôt, lorsqu'elle était réfugiée en milieu urbain dans les quartiers périphériques d'Addis Abeba.
D'abord, on a une plus grande maison. Avant, elle était toute petite. On était tous dans une petite pièce, à 10 dans une chambre, alors qu'ici, c'est grand.
À côté d'elle, son frère, 17 ans, lui aussi, est inscrit en classe de 4e au collège. Il se souvient de ce qui l'a le plus marqué lors de son arrivée.
Nous, on mange avec les doigts, alors qu'ici, il faut des couverts. Et puis là-bas, en Éthiopie, on mange tous ensemble, alors qu'ici, on mange tout seul.
Une fois passée la surprise de ces petits détails du quotidien, il a rapidement pris ses marques, même si ça n'a pas toujours été simple.
Ce qui est difficile ici, c'est la culture et la langue. Et puis c'est dur aussi parce que j'ai laissé tous mes amis, ceux avec qui j'ai grandi. Mais je me sens chanceux d'être ici. Il y a plein de choses à faire et surtout j'ai un futur. Là-bas, on vit sans avenir.
Son avenir, il n'aurait jamais pu l'imaginer de la sorte.
J'ai choisi d'aller au lycée nautique. Quand j'ai vu la mer pour la première fois, c'était merveilleux, très beau. Je ne savais pas nager et maintenant, j'ai appris.
Au total, la famille Tui Tui compte 10 membres, dont 8 enfants. Nial, le jardinier, est le seul enfant majeur.
Il y a 1, 2, 3 chambres ici. Ici, vous avez Tekléwe, Kibron, Raphaël et Gélia qui sont ici. Là, vous avez une petite remise. On a 15 personnes actuellement, 10 Sud-Soudanais et 5 Érythréens. Un frère et une sœur, un père et son fils et un célibataire.
Tous sont sous la responsabilité de cet homme, Mimo Leonetti, dit Don Mimo, le responsable de la Caritas de Sorrente. Plus encore, d'ailleurs, depuis que le projet national est terminé.
La contribution économique que nous donnait la Caritas italienne est finie. Donc aujourd'hui, il repose entièrement sur la communauté du diocèse.
Le cas de Sorrente n'est pas isolé. Dans plusieurs régions, les Caritas locales prolongent le projet faute d'une autonomie complète des bénéficiaires. Don Mimo, lui, a remué ciel et terre pour leur dégoter des emplois. Plongeur dans un restaurant, maçon, aide-cuisinière, jardinier, forgeron et femme de ménage, presque tous les majeurs travaillent. En réalité, la principale difficulté est venue de la recherche de logement dans cette ville si touristique.
Trouver une maison, c'est vraiment difficile, car ici, toutes les maisons sont transformées en B&B, pas uniquement à Sorrento, mais dans toute la région.
Une autre difficulté majeure a été celle de réussir à communiquer efficacement avec les réfugiés, et notamment la famille de Nial, d'origine nuer, une ethnie présente dans la région du Nil supérieur, explique Don Mimo.
Moi, j'ai trouvé un traducteur nuer envoyé par l'ambassade de Rome. Et quand il venait ici, ça n'allait toujours pas, parce qu'il ne venait pas de la même ethnie que les Sud-Soudanais. Et moi, je les trouve où alors? J'ai appelé l'Agence nationale des traducteurs, ils n'ont personne.
Enfin, répète Don Mimo, un an, c'est peu. Car tous les bénéficiaires ont vécu pendant des années, si ce n'est pendant toute leur vie, dans des camps de réfugiés où ils recevaient de l'aide humanitaire.
Si tu savais combien de caisses d'oranges on a ramenées, tu te tirerais les cheveux. Parce que dès que les caisses d'oranges arrivent, ils se mettent à toutes les presser, en continu. Une caisse de 20 kilos durait une journée. Alors il faut nécessairement les faire réfléchir un peu à comment faire durer dans le temps ce que j'ai aujourd'hui.
Oui, je pense qu'ils ne sont pas encore sortis du système d'assistanat.
Non, pour les Sud-Soudanais, non. Et les autres, oui, quand on a arrêté de payer les billets de train.
L'obstacle majeur à leur autonomie économique est aussi le fait qu'ils soient l'une des familles les plus nombreuses du projet. Sur l'ensemble du territoire, seuls 4% de familles comptent plus de 7 membres.
Ils sont tous jeunes, sauf Nial. Ce sont tous des mineurs. Les parents, disons le père, Daniel, n'a jamais travaillé. Et de ce qu'on comprend, il n'a pas l'intention de travailler. Et il reste ici, toujours dans sa chambre. On a fait plusieurs interventions médicales avec lui. On lui a même mis une prothèse. La femme, elle, la pauvre, elle est sourde et beaucoup plus jeune que son mari, donc elle dépend entièrement de lui. Elle fait quelques heures de ménage, 3 heures par jour.
Le père de famille, Daniel, opéré au genou à plusieurs reprises, explique de son côté avoir été induit en erreur.
Ici, tout va bien, la vie est bonne, mais la Caritas m'avait dit « Daniel, tu n'auras pas besoin de travailler ».
De tels propos semblent impossibles. Toutes les familles ont été convoquées à Addis Abeba avant le départ pour leur expliquer les pas nécessaires à leur autonomie en Italie. Une réalité dont est en revanche très conscient le fils aîné de la famille, Nihal, qui travaille comme jardinier.
C'est le moment pour nous de partir, parce que le projet est terminé. Ça ne durait qu'un an et aurait dû partir immédiatement, mais c'est dur pour moi car j'ai un bas salaire. Nous sommes 10 dans notre famille et moi je gagne 700 euros. Et là-dessus, il faut louer une maison, acheter des vêtements et tout un tas de choses. C'est dur pour nous.
C'est sur lui que repose le fragile équilibre économique de la famille et il est conscient que c'est insuffisant.
Je dépense jamais un centime, je ne bois pas, je ne m'amuse pas, je ne fume pas. Tout l'argent que j'ai gagné jusqu'à présent, il a fini directement du porte-monnaie à la banque.
Pour moi, l'Afrique était mieux que l'Europe, explique Amer, le jeune homme qui pensait pouvoir poursuivre ses études en Italie.
Je pense au travail, je pense à ma famille, comment est-ce que je peux les aider ? J'ai pas l'esprit libre en ce moment, je pense à eux. Comment allons-nous faire dehors avec si peu d'argent? Ça me torture tellement l'esprit que j'endors mal la nuit.
Les doutes de Nihal et de sa famille sont partagés par l'ensemble des bénéficiaires à Sorrente, raconte Gelila, la médiatrice culturelle érythréenne qui les accompagne.
Ils ont tous peur en ce moment, parce que même moi, quand j'étais dans un centre d'accueil, j'avais peur quand on m'a dit « Allez, Gelila, faut partir », parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était de vivre en Italie.
Direction Catane, à 600 km plus au sud, en Sicile. Deux mères célibataires érythréennes y ont été accueillies avec le couloir humanitaire, l'une avec un fils, l'autre avec deux. Mais un an après le projet, impossible de les rencontrer. Elles vivent désormais par leurs propres moyens, annonce Salvatore Pappalardo, le responsable du projet à la Caritas de Catane.
De manière générale et en voyant l'ensemble du projet, nous sommes satisfaits, mais personnellement, on l'a dur, on est attristés, on s'est attaché à eux. Nous, on pensait déjà suivre les mamans et leur donner la possibilité de s'intégrer en 3, 4 ans, en collaborant avec la Caritas, par exemple, avec des projets qui nous permettent de les insérer, car à part ça, le territoire de Catane est voué à l'échec. Il n'y a de travail pour personne.
Car l'autonomie des deux mamans n'est que partielle, en dépit du programme d'insertion défini au départ.
D'une part, une école de langue le soir dans un établissement public, et le matin, les mamans participaient à des ateliers d'artisanat, et notamment de couture. Ça, on a réussi à le faire les premiers 2 mois et demi.
À Catane, la difficulté majeure a été l'état de santé des deux mères. L'une a dû être hospitalisée pour tuberculose, l'autre pour tumeur à l'utérus, alors que la clinique privée d'Addis Abeba, chargée d'évaluer leur état de santé avant le départ, n'avait rien noté d'anormal.
On en est content parce que d'un point de vue médical, on a réussi à ce que les deux mamans s'en sortent alors qu'on a été pris complètement au dépourvu. Mais il y a une défaite, la fugue d'Abiel en Belgique. Ça nous fait mal.
Abiel, c'est le fils de Sgarra. Il a 13 ans. Lors de l'hospitalisation de sa mère, il a fugué et rejoint seul son père dans le nord de l'Europe.
Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Sgarra vit dans un foyer et qu'elle a abandonné les cours de formation et ceux de langue. Et son fils Abel vit en Belgique.
Fatawi, l'autre mère, a rencontré un compagnon érythréen chez qui elle vit désormais avec son fils. Elle a interrompu elle aussi les cours d'italien et la formation de couture.
Si on imagine qu'en un an seulement, ces familles doivent apprendre l'italien, s'intégrer, faire face à n'importe quel imprévu de santé, c'est pas facile. Ou bien ce sont des personnes qui croient vraiment au projet et font confiance à la communauté. Alors un an, ça pourrait suffire. Mais si ces personnes ont uniquement comme objectif de profiter de procédures administratives privilégiées, le projet peut durer même 5 ans. Ça ne les intéressera pas.
Pour Salvatore Pappalardo à Catane, comme pour Don Mimo à Sorrente, à l'avenir, le projet doit redéfinir précisément la cible des bénéficiaires qui, dès le départ, concernaient surtout des familles et personnes vulnérables, dont plusieurs en situation de handicap. Ilaria Schneider suit le couloir humanitaire depuis le mois de février 2018 et l'un des premiers voyages en Éthiopie. Cette chercheuse suisse est professeure de recherche au sein de l'université américaine Notre-Dame.
L'un des points cruciaux, c'est le rôle du médiateur culturel. Il n'a pas juste le rôle de traducteur, mais c'est un personnage clé pour expliquer de part et d'autre les différences culturelles. Expliquer aux réfugiés l'endroit où il est arrivé, leur expliquer les normes sociales, culturelles du lieu où il se trouve.
Caractéristiques de quel déterminé contexte.
Depuis un an et pendant les quatre prochaines années, elle évalue les points de force et de faiblesse du dispositif. L'un des plus gros besoins qu'elle identifie est celui d'un accompagnement de certains bénéficiaires par un ethnopsychiatre.
Énormément de personnes arrivées grâce au couloir humanitaire ont souffert des traumas. Même s'ils ne sont pas passés par la Libye, ils ont vécu des violences dans le passé ou dans les camps de réfugiés. Et on n'en prend pas forcément la mesure, que ce soit à cause du manque de communication ou bien parce qu'on n'a personne pour s'en occuper. Et ça crée des tensions, des incompréhensions qui seront par la suite difficiles à résoudre. Et ça a été un cas que l'on a rencontré fréquemment.
Ce constat n'a été qu'une demi-surprise pour Olivier Rowe, Forti, responsable du bureau politique migratoire et protection internationale de la Caritas nationale.
Je dois bien dire qu'on avait pris en compte le fait qu'une partie des bénéficiaires auraient subi ce stress psychologique après leur arrivée et leur rencontre avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, avec des nouvelles activités, et ça amène plusieurs d'entre eux à ne pas savoir gérer cette situation exceptionnelle. Car c'est bien de ça dont on parle, et les plus fragiles en souffrent le plus.
Dans les prochains mois, un nouveau protocole d'accord devrait être signé avec l'État italien pour ouvrir un nouveau couloir humanitaire pour 600 réfugiés venant des camps situés en Jordanie, en Éthiopie et, c'est une première, au Niger.
Certaines dynamiques feront l'objet d'ajustements, à commencer par le briefing avant le départ. Nous avons vu que c'était plus efficace si on ne faisait pas ça de manière frontale, mais en faisant participer le bénéficiaire, donc ça veut dire par exemple avec des jeux de rôle ou l'usage de matériel audiovisuel. Tout ça augmente le degré d'information sur l'expérience qu'ils devront affronter.
Au total, 47 diocèses ont accueilli des réfugiés du nord au sud de l'Italie. Certains se sont révélés trop isolés pour permettre une bonne intégration économique, d'autres pas assez préparés pour gérer des profils de personnes en grande souffrance. Pour le prochain couloir humanitaire, seuls 40% des diocèses ayant déjà accueilli renouvelleront l'expérience, explique Olivier Roforti.
On se rend compte qu'il s'agit d'un accueil très particulier. Ce sont des personnes qui, quelques jours avant d'arriver en Italie, vivaient une situation un peu plus distante, car ils se trouvaient dans des camps de réfugiés, certains dans des déserts, en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc passer de là à une grande ville ou même un village italien, ça veut dire envisager des temps d'adaptation plus longs que ce qu'on avait imaginé.
En un an, 97% des bénéficiaires ont obtenu l'asile, les autres une forme de protection internationale. Tous les enfants sont scolarisés, des cours de langue et de formation ont été proposés à tous les adultes. Seuls 4% des bénéficiaires se sont éloignés du projet, c'est-à-dire qu'ils l'ont abandonné de leur plein gré, souvent pour quitter l'Italie et se rendre dans un autre pays européen, plus au nord. Des résultats positifs et encourageants derrière lesquels se dessinent ensuite, avec des milliers de nuances, les parcours d'intégration individuelle des 500 réfugiés. Migrants, un an après le couloir humanitaire, c'est un grand reportage de Cécile Debarge, à la réalisation Pierre Chaffangeon.